Suivez Priorité Santé avec Sunwa Assurance et souscrivez à l'assurance décès pour mettre vos proches à l'abri de tout besoin financier. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Tromperie, invention, imposture, mauvaise foi, mystification, calomnie, inexactitude, le registre du mensonge est multiple et l'étude de ces mécanismes est riche d'enseignements sur le monde dans lequel nous évoluons, sur ceux qui nous côtoient comme sur nous-mêmes. Certaines contre-vérités sont réconfortantes et peuvent se révéler plus faciles à admettre que la vérité elle-même. Et les temps que nous vivons, la crise sanitaire, la crise tout court, comme certains faits de l'actualité, ont donné un nouvel essor aux rumeurs et fake news, aux complotistes et aux adeptes de la vérité alternative. Alors, les mensonges sont-ils le propre des périodes tourmentées? Pourquoi nous arrive-t-il de faire preuve de mauvaise foi? Dans quelle mesure la durée et le temps transforment-ils le mensonge en piège? Peut-il y avoir plusieurs vérités? Le mensonge peut-il être considéré comme un symptôme? Le mensonge nous pose énormément de questions parce qu'il est partout, parce qu'il est à la fois inquiétant et rassurant. Questions morales et éthiques, mais aussi psychologiques, car les mensonges se décortiquent, s'analysent, s'observent. Les allers-retours entre la vérité et le mensonge jouent un rôle essentiel dans les échanges qui lient les membres d'une société. Et c'est ce que nous allons comprendre au cours de cette émission. Allez, retour entre vérité et mensonge. Citation de votre livre publié aux éditions Odile Jacob, Vérité ou mensonge, qui se lit comme un bon roman. Professeur Patrick Clairvoy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et professeur agrégé de l'école du Val-de-Grâce à Paris. Votre livre qui analyse notamment le passionnant effet Fauvette. Vous allez nous expliquer de quoi il retourne au cours de cette émission. Nous rejoindrons en ligne du Bénin le professeur Prosper Gandao, chef du service de psychiatrie du centre hospitalier départemental et universitaire de Borgou à Parakou. Et puis en fin d'émission, on va retrouver la chronique de Stéphane Besançon, nutritionniste directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Clairvoy, pourquoi un psychiatre s'intéresse-t-il aux mensonges?
Alors, pour différentes raisons. La première, c'est que j'ai été intrigué par la difficulté qu'avaient les personnes en général, soit à s'extraire du mensonge, soit à pouvoir dénoncer un mensonge quand elles en observaient un. Et j'ai remarqué que la tendance générale, j'allais dire, le mot qui me vient en tête, c'est on avait tous tendance à nous agenouiller devant le mensonge des autres. Très bien, il ment, eh bien on l'accepte, c'est comme ça. Et je dois dire que de toute façon, l'actualité avec tout ce qui s'est passé autour du personnage de Donald Trump a montré comment une nation entière pendant 4 ans s'est agenouillée. Et on voit bien cet effet retour que c'est juste à la fin, le dernier débordement, mais c'est celui-là qui tout d'un coup révèle à tout le monde que oui, on s'est laissé mentir pendant 4 ans. Eh bien, c'est cette tendance spontanée que nous avons à nous agenouiller devant le mensonge des autres qui m'a inquiété.
C'est quoi le mensonge? C'est une compétence, c'est une ruse, une habitude, un moyen de survie?
Pour moi, le mensonge, c'est d'abord une performance. Et j'avoue que des fois, je ne peux pas manquer de m'incliner devant les stratégies, les inventions, les capacités qu'ont certains menteurs à maintenir leur statut. Par exemple, certains imposteurs ont pu se maintenir pendant des années en trichant sur leur identité, sur leur histoire, sur leur bien matériel, en racontant qu'ils avaient, les uns un bateau à tel endroit, les autres une maison, une belle maison à tel autre endroit. Personne ne va vérifier. Et finalement, on voit que le menteur utilise sa stratégie pour retrouver de la valeur là où il pense en manquer.
Donc, il révèle une forme de fragilité, mais encore faut-il que le public soit là. Et c'est là où on voit ceux qui ont envie, besoin, vraiment besoin, de façon viscérale, besoin de croire.
Oui, alors ça, c'est quelque chose que je ne pensais pas trouver quand j'ai commencé à m'intéresser aux mensonges, mais qui s'est révélé au fur et à mesure de toutes les histoires que vous avez pu lire. C'est ce que j'appelle l'effet Fauvette. Alors, je vais peut-être m'expliquer sur ce que j'appelle l'effet Fauvette. Le menteur, c'est quelqu'un qui se dissimule derrière une apparence, des paroles ou des énoncés qui sont faux, mais qu'il veut que l'autre prenne pour vrai. Je me suis dit, mais est-ce que c'est le propre de l'homme ou est-ce qu'on observe ça dans la nature ? Et il y a des exemples dans la nature de très grandes réussites d'imposture. Et l'imposture la plus typique pour moi, c'est celle du coucou. Mmh. Le coucou est un oiseau qui ne construit pas de nid et qui n'élève pas ses oisillons. Eh bien, première stratégie du coucou, il est capable d'avoir des œufs qui reproduisent et imitent le motif d'une autre catégorie d'oiseaux. En l'occurrence, très fréquemment, les fauvettes. Oiseaux beaucoup plus petits. Et donc, le coucou arrive dans un nid où il a repéré que la fauvette était partie. Il va enlever un œuf de ce nid pour y mettre le sien, qui est de toute façon plus gros. Mais la fauvette n'y verra rien. Le bébé coucou, quand il va éclore, va expulser les autres œufs de fauvette ou les oisillons fauvettes. Et on a un oiseau tout petit, la fauvette, qui va se comporter comme si le seul oisillon qui restait dans son nid était le sien. Or, tous les signes sont là. Il est plus gros, c'est pas la même forme, enfin, etc. Tous les signes sont là pour lui dire « mais c'est pas ton oiseau, ça ». Eh bien, la fauvette, jusqu'au bout, va continuer à le faire.
Ça offre une parabole par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure avec Donald Trump, entre ce dirigeant qui ne ressemble en rien au peuple et que le peuple met au cœur du nid.
Oui, et accepte. Et on en a fait un homme présidentiel. Et regardons aussi quelque chose. Il a été aussi président des États-Unis pendant 4 ans. Mmh. Voilà.
Il est resté dans le nid. Qu'est-ce qui distingue justement un menteur pathologique d'un menteur de la société qui passe comme les autres ? On va dire, il y a un mot qui revient à l'esprit forcément, le mythomane. Est-ce que le mythomane est malade de son mensonge ?
Ah, eh bien, c'est là que le psychiatre que je suis intervient, pour deux raisons. D'abord, je cite cet exemple dans le livre parce que c'est là que j'ai été un peu mal à l'aise dans mon métier. On m'a demandé de me prononcer sur l'aptitude militaire d'une personne qui avait menti sur son histoire précédant son arrivée à l'école.
Militaire parce que votre formation, votre exercice a été dans la médecine militaire.
Et il est clair que, par exemple, dans des situations extrêmes de stress, d'urgence, de catastrophe, on a besoin d'avoir une confiance entre nous. Mmh. Et donc, cette personne, par exemple, n'avait aucune inaptitude intellectuelle. Mmh. Elle était intelligente comme les autres, sinon plus. Avait parfaitement réussi ses épreuves et ses examens, et c'était même, on va dire, un relativement moyen bon élève. Et pourquoi dirais-je qu'il est inapte uniquement parce qu'il a menti ? Eh bien, je pense qu'on ne peut pas dire que le mensonge est pathologique, puisque la plupart d'entre nous, nous avons usage au mensonge. Vous m'invitez à manger, vous m'avez fait un plat, je vous dirai de toute façon, c'était très bon, merci, je me suis régalé. Quel que soit ce que j'ai trouvé ou pas à mon goût dans votre plat. Et donc, mentir n'est pas pathologique. Mais insister dans un mensonge et ne pas savoir sortir de son mensonge, c'est là que je vois la marque d'une difficulté et d'une pathologie et pour laquelle je mets la personne inapte.
Des menteurs qui jalonnent l'histoire de l'humanité dans la fiction, théâtre, cinéma, littérature aussi. Des menteurs célèbres, peut-être le plus célèbre d'entre eux. Il est sorti en 1881 de l'imagination de Carlo Collodi. C'est Pinocchio, bien sûr, porté à l'écran par Disney en 1940. Quand le mensonge se voit à l'œil nu.
Pinocchio, pourquoi n'es-tu pas allé à l'école ?
À l'école ?
Courage, dis-lui tout.
Je m'en allais à l'école quand j'ai vu deux messieurs.
Deux messieurs ?
Oui. Deux énormes monstres, avec de grands yeux verts. Et alors je...
Des monstres ? Oh, tu as dû être effrayée.
Non, madame, mais ils m'ont mis dans un grand sac.
C'est incroyable. Et où était messire Jiminy ?
Jiminy ?
Je ne veux pas y être mêlée.
Ils l'ont mis dans un petit sac.
Non.
Si.
Comment t'es-tu échappée ?
Je n'ai pas pu, ils m'ont coupée comme du bois brûlé. Oh, regardez mon nez. Qu'est-ce qu'il a, mon nez ?
Peut-être m'as-tu menti tout à l'heure, Pinocchio.
C'est possible.
Oh, mais je le jure, je n'ai dit que la vérité. Oh, pitié, aidez-moi. Je suis si malheureux.
Vois-tu, Pinocchio, c'est ainsi qu'un mensonge grandit, jusqu'à ce qu'il se voit comme le nez au milieu de la figure.
Allons, Pinocchio, tu dois avouer maintenant.
À l'avenir, je dirai toujours la vérité. C'est promis.
Je vous en prie, votre honneur. Alors, je veux dire, madame la fée, il faut lui pardonner son erreur pour m'être agréable, voulez-vous ?
Bon, je te pardonne pour cette fois, mais rappelle-toi bien, un petit garçon qui fait le méchant peut tout juste être une poupée de bois.
Nous serons bien gentils, on le promet.
Très bien, mais c'est la dernière fois que je vous aide.
Professeur Clairvoy s'enferrait dans son mensonge, hein, c'est même une expression. Et pourtant, à la fin, quand Pinocchio, le menteur professionnel, promet qu'il dira la vérité, il y croit, et des fois, nous aussi.
Mais oui, mais vous savez, autre situation qui m'a fait sourire, bon, il y a eu cette histoire malheureuse d'un ministre des Finances français qui avait juré qu'il n'avait jamais eu de compte en Suisse et qu'il avait juré les yeux dans les yeux à la télévision, etc. Et qui a été
Patrick Cahuzac, on peut dire son
voilà.
nom.
Voilà. Eh bien, je, comme cette histoire me passionne, parce que je veux dire, il est aussi, il a été captif de son mensonge. Il aurait dit tout de suite la vérité. J'ai fait une bêtise, j'ai fait ça, c'est une erreur. Ça serait passé. Mais on voit que là où il y a de la pathologie, c'est l'incapacité à revenir sur sa propre vérité. Eh bien, quand il est interrogé devant la commission au Sénat, on lui dit, voilà, levez la main droite, dites, je le jure. Il dit, je le jure. Mais pourquoi les propos qu'il dirait là seraient-ils plus sincères que ce qu'il avait eu plusieurs mois auparavant?
En même temps, c'est ce qui se passe tous les jours devant les cours de justice.
Et voyez, et donc, c'est pour ça qu'il y a un côté toujours théâtral. Il y a un côté théâtral. Et c'est pas moi qui le dis. J'ai parlé aussi de la vérité judiciaire. Mais vous avez des très célèbres avocats qui nous ont dit que c'était de toute façon un théâtre. Et on s'aperçoit qu'il y a toujours un jeu. Vous voyez, un jeu, mais comme un jeu au théâtre, il y a un jeu entre la vérité et le mensonge. Et ce qui est fascinant, c'est le rôle que chacun d'entre nous tenons. Parce qu'il n'y a pas que le menteur qui joue au mensonge. Il y a aussi les autres qui jouent au crédule. Et certains, parfois, qui s'opposent violemment à ce que la vérité fût révélée.
Une fois même qu'elle est vérifiée, preuves à l'appui. Oui. Tout de suite, un premier témoignage d'un Priorité Santé.
RFI Anjamena, 100.2 FM.
Et partager le quotidien d'une personne qui vit dans le mensonge, un témoignage tout de suite avec un message enregistré. C'est l'expérience vécue par Nadège. Elle écoute Priorité Santé en Mauritanie, expérience dont elle témoigne tout de suite.
Allô, bonjour Priorité Santé, je suis Nadège, j'habite en Mauritanie. Je vais vous raconter mon histoire de mensonge. Quand j'avais 27 ans, j'avais raconté à un monsieur qui travaillait dans une société de la place. Et puis, un de ces quatre matins, j'ai dit, « Ah, chérie, mais quand tu rentres à la maison, il fallait m'amener telle boisson aujourd'hui. » Il m'a dit, « Ah, désolé, j'ai oublié. » J'ai dit, « Ok, d'accord, j'ai consommé. » Il m'a parlé comme ça pour me faire calmer. Après, j'ai dit, « Ah, c'est suspect. » J'ai remonté mon information petit à petit et puis je me suis rendu compte que son contrat est arrivé à terme. Donc, il n'était plus salarié dans cette société. Mais pourquoi il se leva le matin pour aller au boulot? Comme il avait un chez lui et moi aussi j'ai un chez moi. Ok, d'accord, un de ces quatre matins, il était venu à la maison. Je lui ai dit, aujourd'hui, il n'y aura pas de dîner parce que je suis tellement pris avec la rédaction de ma mémoire. Il était resté jusqu'à 23h, je ne lui ai pas calculé. Tout simplement, je lui ai rendu la monnaie de ses mensonges parce que je n'avais pas accepté. Et j'ai mis terme à notre relation jusqu'à nos jours. Merci.
Témoignage de Nadège hein, qui refuse le rôle de la fauvette, elle, professeur Clairvoy. Plusieurs exemples dans votre livre ont des points communs avec ce témoignage. Faux emploi du temps. Mais cette auditrice, elle, a vu la vérité et elle a su mettre le holà.
Oui, et j'allais dire, bienheureuse est-elle d'avoir su mettre un terme à cette relation parce que, imaginez par exemple, qu'elle n'ait pas eu toujours beaucoup de chance en amour, que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui lui joue la comédie comme elle l'attend depuis très longtemps, que c'est une occasion qui ne se représentera pas dans son existence. Donc, elle aurait pu tout faire pour que ce mensonge n'apparût pas et qu'elle continue à avoir, j'allais dire, une vie quasi normale en camouflant ce mensonge-là. Et on avait des histoires, ben, comme l'affaire du docteur Roman, par exemple, où ça peut durer 20 ans. Mais le problème, c'est que plus le mensonge se prolonge, plus la sortie du mensonge risque d'être catastrophique. Eh bien, Nadège, elle s'en est très bien sortie parce qu'elle a aussi cette forme d'intelligence et de se dire, de toute façon, je ne peux pas envisager une vie saine avec quelqu'un qui commence une relation comme ça.
C'est une façon de se respecter soi-même.
Absolument, absolument.
Et ce qu'on constate aussi, c'est que certaines personnes peuvent côtoyer des menteurs. Autour de ces personnes, l'entourage dit attention, il est en train de te tromper, il est en train de te leurrer. Et éventuellement de te faire du mal, et malgré tout, les personnes persistent.
Oui, et ben c'est l'effet fauvette. Mmh. Mais vous savez, j'en ai cité plusieurs exemples, mais par exemple, à un moment donné, on parle de l'industrie du tabac, il y a ce magnifique journaliste qui est Pierre Dumayet, mais qui dit tout simplement, s'il vous plaît, laissez-moi, il dit, quand on lui donne une information, je sais que vous avez raison.
Sur la nocivité du tabac.
Voilà, mais il dit, laissez-moi me mentir. Et cette phrase, mmh. elle est tellement juste, elle est d'une terrible honnêteté. Parce que je me dis, mais finalement, si lui le dit, c'est un grand monsieur, ce Pierre Dumayet, finalement, combien sommes-nous à nous dire régulièrement, oh, laissez-moi me mentir, voilà. En même temps, nous avons tous besoin d'espérance. Mmh. Or, la vérité n'est pas toujours porteuse d'espérance, voilà. Et nous avons besoin, pour nous développer psychiquement, de deux notions. Celle, premièrement, d'un certain réconfort, quand même. En gros, ne pas être accablé de stress. Et deuxième point, une espérance. Et mon grand maître en psychiatrie, qui s'appelait Henri Hay, disait « L'optimisme et la raison se confondent ». Ça veut dire que si je n'espère pas une amélioration de la situation, je ne peux pas être heureux et envisager l'avenir, ni entreprendre. Voilà. D'où l'idée que quand même, cette imbibition du mensonge que nous avons dans le quotidien, elle est là et presque, on en a besoin.
On va prendre une autre auditrice en ligne. C'est Amira qui nous appelle du Tchad. Amira, bonjour.
Bonjour.
Alors vous aussi, une histoire à raconter, et vous aussi à la base, une histoire d'amour et une histoire de mensonge. Racontez-nous.
L'histoire remonte un peu très longtemps. J'avais 14 ans à l'époque, j'ai déjà rencontré un homme qui était plus avec moi. Mmh. Et je l'ai aimé, bon, c'était l'adolescence, tout ça... Et dans cette relation, j'espérais vraiment vivre ma vie, passer tout le temps de ma vie avec cette personne. Et à l'époque, j'étais jeune, la personne me donnait des conseils en me disant « Non, tu es encore très jeune, tu dois aller à l'école, tu dois finir après les études, bon, on va se retrouver. » Et par la suite, on s'est perdu un peu de vue, je me suis retrouvée dans une autre ville, en train de finir mes études. Et je l'ai retrouvée grâce aux réseaux sociaux qui est Facebook. Et je remercie mon Facebook pour ça. Et quand je l'ai retrouvé, bon, c'est l'amour qui revenait encore. Mmh. Et à cause de lui, je ne peux pas dire, c'est à cause de lui, peut-être grâce à lui, j'ai décidé de revenir dans la ville où il se trouvait. Mmh. Et on a renoué cette relation. Et j'espérais vraiment ce mariage. Et par la suite, nous sommes restés pendant 2 ans, 3 ans comme ça. Et j'ai appris à travailler une autre personne que la personne s'était mariée avec une autre personne, que moi. Mmh. Et quand j'ai appris cette histoire, bon, je savais, c'était vrai, je l'ai appelé, je l'ai rajouté à toi. Je voulais que ça sortait de sa bouche, qu'il puisse me dire au moins que je me suis mariée, peut-être qu'il me donne des raisons qui étaient vraiment valables. Mm. Et la personne m'a insisté sur son mensonge en me disant que non, il ne s'est pas marié. Je lui ai dit, bon, moi, j'ai appris que tu t'es mariée avec une autre personne. Je ne suis pas contre ce mariage. Tu peux décider ta vie, ce que tu veux, mais moi, je veux savoir pourquoi ce mensonge. Qu'est-ce que j'ai fait ou bien qu'est-ce qui manquait dans notre relation que tu n'arrivais pas à retrouver et que tu as oublié chez une personne pour moi. Il n'y avait pas vraiment une réponse concrète.
Amira, excusez-moi parce que la qualité sonore n'est pas très bonne parce que je pense qu'il y a du vent autour de vous. Je voulais vous demander, du coup, vous étiez engagée avec lui alors que vous avez appris qu'il avait une autre vie, une deuxième épouse en quelque sorte.
Non, c'est pas lui. Après, j'ai rompu la relation avec lui.
Oui.
Je me suis dit, bon, c'est fini, lui, c'est bon. C'est pas l'homme idéal de ma vie. J'ai rencontré un autre monsieur. Mmh. Et sous la colère de la première relation, je me suis dit, celui qui se présentera à moi et qui m'aimera, qui me prouvera qu'il m'aimera, qui voudra de moi comme étant son épouse, parce que j'avais un peu près de l'âge, tu sais, la société. Mmh. Après, quand tu as 25 ans et 6 ans.
Ouais, il y a la pression.
Il y a la pression sociale qui est là. Mmh. Les gens se posent des questions. Est-ce que tu te maries pas? C'est pas toi le problème. Bon, je me suis dit, OK, je vais me marier. Mmh. Je me suis rencontrée avec un homme, je ne l'ai pas vraiment aimé parce que c'était la colère. Je me suis mariée avec cette personne, j'ai eu une petite fille et j'ai encore après cette relation qu'il y avait une autre femme qui existait. Mmh. Et là, je me suis dit, ben, peut-être c'est moi, je ne suis pas destinée à être aimée par un homme ou bien ma vie ne se résume pas à un homme. Et depuis là, ben, je n'ai plus confiance aux hommes et je n'ai plus confiance dans mon entourage. Je ne fais plus confiance aux gens. Je me dis, ben, tout ce qui se présente devant moi, c'est des personnes qui mentent, c'est pas des personnes qui sont vraies. Et j'ai même dit que la xénophobie, c'est la meilleure façon de vivre, en fait. Être seul, ne pas vouloir être en relation avec des gens.
Donc vous êtes blessé aujourd'hui, on l'entend bien, professeur Patrick Clairvoy, on disait le mensonge qui rassure, dans le cas d'Amira, c'est le mensonge qui fait mal.
Oui, alors il y aurait pu y avoir d'autres scénarios. Par exemple, si l'homme a menti en cachant le fait qu'il était déjà marié, qu'il avait déjà une première épouse. Mais il aurait pu, par exemple, reconnaître qu'il avait menti, et deuxième point, demander pardon. Mm. Et on aurait pu imaginer qu'il puisse y avoir une réparation de la relation. Et je l'évoque aussi dans le livre, il faut toujours offrir à un menteur la possibilité de sortir de ce mensonge et de demander et de proposer réparation de ce mensonge.
Ça ne veut pas dire qu'on va forcément l'accepter.
Ça ne veut pas dire qu'on va forcément accepter, mais c'est au moins un point de départ. Mm. Voilà, parce que le pire, c'est quand même d'agir comme si le mensonge n'était jamais advenu, bien qu'on l'ait appris. Mm-hmm. Bien qu'on l'ait appris. Et donc, moi, je trouve très touchant le témoignage d'Amira, parce que on imagine combien elle a été blessée par ça. Et malheureusement, et c'est là qu'on voit que le mensonge est toxique. C'est-à-dire que maintenant, on entend Amira qui nous dit « J'ai compris que je ne devais avoir confiance en personne. Mm-hmm. » Et donc, sa vie est beaucoup plus difficile que celle d'autres personnes, parce qu'elle a perdu la capacité à avoir confiance en quelqu'un. Et la confiance, c'est un travail de tous les jours, et on voit comment le mensonge peut, chaque jour, menacer la relation de confiance que nous pouvons avoir entre nous.
Merci beaucoup, Amira, pour votre témoignage. On va se retrouver juste après une pause musicale, professeur Clairvoy, tout de suite avec Aurel San, excuse ou mensonge.
Vous êtes sur RFI ? Et vous écoutez Priorité Santé.
J'ai craché sur le sol, j'ai juré sur ma vie, j'ai donné ma parole, j'ai juré, j'ai promis. J'ai craché sur le sol, j'ai juré sur ma vie, j'ai donné ma parole, et puis j'ai tout détruit.
C'est des mensonges tellement beaux, tu voudras plus jamais croire la vérité. C'est des excuses tellement belles, tu voudras que je trahisse pour les écouter. Des mensonges tellement beaux, tu voudras plus jamais croire la vérité. J'ai des excuses tellement belles, tu voudras que je trahisse pour les écouter.
Dis-moi, puisqu'on en est là, dis-moi comment tu veux que je m'en sorte. Puisqu'il est hors de question qu'aucun de nous deux ne passe la porte. Je sais, je finirai par payer, mais la note est bien trop élevée. Désolé, je vais devoir te piéger car je t'aime. J'ai des mensonges.
J'ai des mensonges tellement beaux, tu voudras plus jamais croire la vérité. J'ai des excuses tellement belles, tu voudras que je trahisse pour les écouter. Dis-moi ce que tu rêves d'entendre. Je te mentirai avec une voix d'enfant. Je traverserai la planète en rampant. Je passerai le reste de ma vie à faire semblant. Droit dans les yeux, je te mentirai. Tu verras du feu, de la fumée. Je sais c'est naze mais c'est trop tard. C'est comme ça, je serai pas juste une histoire tout gâchée.
Priorité santé sur RFI, nous retrouvons notre invité en studio, le professeur Patrick Clairvoy, psychiatre. Votre livre, professeur, intitulé « Vérité ou mensonge » vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Comme promis, on retrouve d'autres témoignages. Pour ça, on part tout de suite en République démocratique du Congo.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Et on vous donne la parole, Jacques, bonjour.
Bonjour.
Alors Jacques, on va le dire carrément, vous avez menti, plusieurs mensonges, insupportables aujourd'hui pour vous, vous allez nous expliquer pourquoi, allez-y.
Oui, à l'époque, maintenant j'ai 25 ans, à l'époque quand j'entrais à l'université, j'avais croisé une fille, j'avais des sentiments pour elle, on a échangé des contacts, après un temps de messages, on a prévu se voir pour une rencontre. Et c'était au cours de cette rencontre que je devrais lui déclarer mon amour pour elle. Mmh. Et au cours de cette rencontre, elle en a profité pour me demander mon année d'études. Généralement, on avait une tendance, quand on est, parce que j'étais en première, je ne pouvais pas dire à une fille que j'étais en première, sinon elle n'allait peut-être pas accepter ma demande, parce que les filles ont généralement tendance à accepter des gens en deuxième, troisième et autres. Je lui ai dit que j'ai menti en disant que j'étais en troisième, alors qu'en réalité, j'étais en première.
Oui.
Bon, voilà, c'était parti, la fille a accepté ma proposition, on a commencé à être ensemble. Un jour, elle m'a rendu visite chez moi, dans ma chambre, où je vivais à l'université. Et quand elle est venue, bon, c'était une surprise, on était là, on parlait de ce qui nous concernait. Un ami de ma classe est venu dans ma chambre. Et l'ami était venu se renseigner sur un devoir. Les devoirs portaient sur un cours qui s'enseigne généralement en première année. Alors que moi, j'avais dit à ma copine que j'étais en troisième, mais l'ami vient me parler d'un devoir de troisième année, de première année.
Et là, votre amie, elle réalise ce qui se passe ou pas encore?
Oui, la fille essaye de réaliser parce que j'étais en train de bandir un peu de petits gestes à mon ami qu'il était sur un mauvais virage et qu'il pouvait arrêter avec ces questions, mais l'ami ne comprenait pas. Au fur et à mesure, il s'est rendu compte que non, je lui interdisais de plus continuer avec cette question. Mais la fille a pris son mal à patience. Elle a essayé de comprendre que non, mais certainement je devrais être en première et que je l'avais menti. Elle a précipité son départ, elle a dit bon, on se voit prochainement, tout ça. Et par la suite, elle a exigé qu'on puisse se voir et qu'elle avait quelque chose à me dire. Bon, j'ai évité les justesses, qu'on ne puisse pas se voir, mais sinon elle tenait, me menaçait sur les réseaux sociaux, si on devait se voir pour ça. J'ai discuté avec mes amis, ils m'ont dit, bon, ils m'ont fait une proposition, vas-y, dis-lui que c'est une autre vacation que tu es en train de suivre, et que dont les cursus réguliers université, tu es en troisième, mais l'autre vacation soir, tu es en première.
Est-ce que vous, bon, avez fini par lui dire la vérité?
Je n'ai pas fini par lui dire la vérité, parce que elle m'a donné la chance de lui dire la vérité. Elle m'a dit, si tu m'avoues que tu étais en première et que c'est fini un mensonge, je te pardonnerai. Mais moi, j'ai enfoncé, j'ai encore parlé d'un autre mensonge et ça m'a enfoncé plus. Et chaque fois, ça m'est reproché, elle est partie, mais sinon je n'arrivais pas. J'avais compris qu'elle avait décelé mon mensonge.
Et aujourd'hui, cette relation, Jacques, elle en est où?
La relation, en tout cas, j'avais décidé de rompre parce que j'étais culpabilisé. Chaque fois que je la voyais, je me sentais vexé, je me sentais culpabilisé.
Ça veut dire que c'était plus simple pour vous de tout arrêter que de lui dire « voilà le mensonge que je t'ai dit, éventuellement, est-ce que tu me pardonnes, je reconnais mon erreur ». C'était plus dur de tout arrêter plutôt que de dire que vous étiez un petit peu engagé sur un mauvais chemin.
Bon, ce qui était dû parce que j'avais enfoncé dans le deuxième mensonge.
Voilà, c'était
ça. J'ai amené le deuxième mensonge pour dissimuler le premier, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est moi-même qui me sentais culpabilisé chaque fois. Bon, je dis, bon, la meilleure chose à faire, c'est de me libérer de cette fille, voilà. J'ai décidé de rompre la relation.
Plutôt vous libérer de la fille, plutôt que vous libérer de votre mensonge, Patrick Clairvoy. On perçoit complètement ce que vous appelez le piège du mensonge.
D'abord, je vais remercier Jacques.
Parce qu'il nous dit les choses clairement.
Ce type de témoignage est rare. Et il nous montre justement comment on peut être piégé, écoutez bien, piégé par son propre mensonge. Et c'est là que peut intervenir peut-être la dimension de la pédagogie, de l'éducation. C'est-à-dire, est-ce que réellement on inclut dans l'éducation des enfants, dans la pédagogie, soit à la maison, soit à l'école, des circonstances où on montre à l'enfant comment il peut avoir des stratégies pour sortir du mensonge. Ça, on ne nous l'apprend pas. Et des fois, on en a la découverte cuisante. Et pour Jacques, véritable sentiment amoureux, partagé. Et on voit comment, malheureusement, la stratégie du mensonge est venue faire échouer une belle relation, puisque même la partenaire dont nous parle Jacques est une personne qui avait une belle spiritualité, c'est une belle personne.
Parce qu'elle lui demande de s'expliquer.
Voilà. Elle dit, écoute, si tu me dis, si tu reconnais que tu as menti, moi, c'est pas un problème, je te pardonne. Donc, on voit qu'elle avait déjà cette disposition. Et je pense qu'il y a peut-être un effort que l'on peut faire dans la pédagogie à raconter des histoires, comme celle que ce témoignage de Jacques, mais peut-être prendre d'autres histoires, comme on en a plein dans l'histoire, dans le récit qu'on a. Et aider l'enfant à comprendre comment il peut utiliser à un moment donné, de dire, allez, pause, j'arrête le film là, c'est vrai, je n'ai pas dit la vérité. Mais ce que Jacques ne dit pas, mais qui est peut-être arrivé dans son histoire, c'est que moi j'ai vu des situations où des menteurs ont dit, écoutez, j'aimerais qu'on rétablisse la vérité, et d'autres qui disent, écoute, tu nous casses les pieds, on ne veut plus t'entendre. Voilà. Et j'ai vu des situations, et ça a été probablement le cas dans l'affaire du docteur Roman, qui lui aussi avait menti. sur sa réussite dans son examen. Où il semblerait qu'il ait dit à plusieurs reprises « Et si tout ça était faux ?» Et les autres lui auraient dit « Écoute, arrête, tu nous casses les pieds avec ça.
Mm-hmm. » Voilà. Laisser la porte ouverte aussi pour que la vérité commence un peu voilà. à fuser.
Il faut laisser le menteur, il faut toujours offrir au menteur une porte de sortie.
Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Et on va prendre un dernier auditeur en ligne du Bénin, en ligne d'Azové. C'est vous, Rigobert, bonjour.
Bonjour, Priorité Santé.
Alors vous êtes, on va dire, dans le rôle, même si ce n'est pas vraiment un rôle, mais vous avez été trompé à plusieurs reprises, c'est bien cela?
Exactement, madame.
Racontez-nous.
Alors, moi, je vous dis hein, que le mensonge, c'est comme une infection qui peut rendre malade. Parce que j'ai été dupé à plusieurs reprises et du coup, aujourd'hui, je n'arrive plus à croire ce qu'on me dit. J'ai des difficultés à considérer tout ce qu'on me dit comme vérité. Parce que mes amis m'ont plusieurs fois dit d'investir, d'investir dans des projets financièrement, quoi. Et après tout, j'ai découvert que ces projets n'existaient nulle part. C'est pour dire que j'ai été trompé plusieurs fois, même dans des relations amoureuses. Et aujourd'hui, j'ai des difficultés à croire. C'est comme une maladie pour moi aujourd'hui, quoi. Ça, je vis, je suis devenu comme ça, je n'arrive plus à croire.
Tous ces mensonges ont vraiment abîmé votre confiance, Rigobert.
Exactement ça.
On a un autre auditeur, hein, c'est Oumar de Nouakchott en Mauritanie, qui utilise lui aussi une autre image. Vous avez dit le mensonge, c'est comme une infection qui, on va dire, qui avance dans le corps et qui fait mal. Lui, il dit le mensonge, c'est comme une case fabriquée pendant la saison sèche. À l'arrivée de la pluie, elle s'écroule. Professeur Patrick Clairvoy, le mensonge qui peut faire mal. On l'a entendu tout à l'heure avec Jacques, hein, qui a menti, ça lui a coûté certainement une jolie histoire d'amour. Et là, avec Rigobert, à qui on a menti, et ça lui a complètement laminé la confiance.
Oui, alors il le dit très, très bien, Rigobert. C'est-à-dire que il y a toujours la question d'une dualité. C'est, est-ce que je dois faire confiance? Est-ce que je dois me méfier? Si je mets de la méfiance dans toutes mes relations sociales, ma vie est impossible. Et donc, il y a toujours à postuler qu'on va faire confiance, mais avoir toujours la posture d'être vigilant. Je te donne ma confiance, mais j'observe, voilà, je vérifie. Et on observe finalement qu'au bout d'un certain temps, des gens préfèrent avoir la confiance sans avoir le doute, parce que c'est aussi beaucoup plus confortable. Et si on me mentait? Et la... Notre vie est difficile parce que nous avons en permanence à jauger la qualité de la relation de confiance qu'on peut entretenir avec l'autre.
Parce que, professeur, forcément, vous dites on va aller vers des situations où le doute est levé, mais le doute, il est partout.
Alors, le doute, il est permanent, mais il est même sain. Moi, je me souviens d'une collègue de travail qui m'avait parlé de cette phrase, la saine pratique du doute. Et ça m'a parlé, mais oui, la saine pratique du doute, c'est-à-dire toujours réfléchir, est-ce que je fais bien? Est-ce que ce que l'on me dit est la vérité ou pas? Mais évidemment, c'est un effort intellectuel. Je ne peux pas me reposer dans le confort en disant bah, « Écoutez, je vais suivre les lents de tout le monde, je vais faire comme tout le monde. »
Pourtant, vous dites aussi dans le livre que le groupe, c'est un agent qui favorise le mensonge, justement. Je ne vais pas faire comme tout le monde, mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui suivent parce qu'ils sont dans le doute.
Oui, et en même temps, voyez bien comment finalement le consensus de confiance, c'est le lien qu'il y a entre chaque membre du groupe. Et le menteur, c'est celui qui va utiliser cette confiance de base que tout le monde a pour lui pouvoir s'en sortir avec un moindre effort.
Donc aujourd'hui, Rigobert, prudent, mais à force d'être prudent, on peut aussi se retrouver tout seul.
Moi, je dirais à Rigobert qu'il n'enlève pas la confiance, mais qu'il ait toujours une posture de doute à dire « Ok, tu m'as dit ça, on va vérifier. »
Tu me laisses un petit peu de temps.
L'idée, c'est que si on demande aux personnes sans arrêt, on leur dit « Écoutez, je vais vérifier ce que tu m'as dit », elles vont dire « Tu me casses les pieds. » Mais Rigobert, votre ami, écoute, je vais te raconter 2-3 histoires de ce qui m'est arrivé auparavant et tu vas comprendre que si tu veux faire des affaires avec moi, maintenant j'ai besoin d'avoir... Eh bien, c'est la posture la plus saine. Et j'allais dire, même si par exemple une personne fait confiance à une autre, tous les jours, il y a un travail pour maintenir cette confiance. Mmh. La confiance, c'est un travail quotidien. Sinon, si ce n'est pas cet effort, eh bien, effectivement, ça s'appelle plus de la confiance, ça s'appelle de la naïveté.
Au moins, tirer profit de ces expériences, même si elles ont été malheureuses. Très bonne journée à vous, Rigobert au Bénin. Et on part tout de suite pour une autre ville béninoise.
Parakou, 106.1 FM.
Avec en ligne le professeur Prosper Gandao. Bonjour, professeur.
Bonjour.
Chef du service de psychiatrie au centre hospitalier départemental universitaire de Borgou. Professeur, au cours de cette émission, on a souligné avec notre invité, le professeur Clairvoy, que la période actuelle, société incertaine, hein, favorisait dans une certaine mesure le mensonge. Est-ce que c'est aussi votre sentiment?
Tout à fait. Tout à fait. Avec les moyens de communication actuels, le mensonge est devenu un pain quotidien. Tout le monde ment. Même les enfants, les adultes, adolescents, tout le monde. Avec le téléphone, c'est plus facile parce que il peut se retrouver quelque part, vous lui posez une question, il dit non, je viens vers vous. Le mensonge est devenu vraiment un mal global.
Un mal global dans tous les milieux, sans stigmatiser forcément plus l'un que l'autre, pour arriver à certaines fins, pour obtenir quelque chose dans leur carrière. Est-ce que, par exemple, si on parlait du cadre de l'activité médicale, vous avez été le témoin de situations de mensonges?
Oui, nous avons été témoins de situations de mensonges. Il est vrai, beaucoup ne viennent pas consulter pour le mensonge. Mais nous avons un cas d'une mère qui est venue, qui a amené son enfant, qui ne voulait pas que ce dernier soit comme son père parce que déjà il ment. Et la mère demande des conseils, de l'aide pour que cet enfant ne devienne pas comme son père. Mais maintenant, il y a d'autres cas où c'est plutôt le corps médical. Il y a des mensonges qui sauvent, il y a des mensonges qui tuent. Chez nous, par exemple, il faut étudier la mentalité du patient pour ne pas lui dire, quand il a une pathologie grave, que c'est une pathologie mortelle. Mmh. Donc, on est obligé de prendre vraiment pas des voies détournées pour essayer donc d'informer peut-être un membre, un client de la famille de l'évolution probable défavorable de ce cas. Mmh. Et il y a aussi les malades qui nous mentent pour ne pas dire en réalité ce de quoi ils souffrent, notamment quand je prends le cas de l'infection par le VIH, qui est considéré comme une maladie acceptable de tout le monde. Le patient peut dire, non, j'ai pris les précautions, j'ai fait des bilans, et c'est normal. C'est petit à petit que vous allez découvrir tout son mensonge. Il y a d'autres également à qui vous prescrivez des soins, qui ne les prennent pas, qui disent qu'ils les prennent, surtout dans le domaine de la pathologie mentale, où certains sont intelligents, vont lire la notice, les effets secondaires des neuroleptiques que vous leur avez prescrit dans un traitement de contrôle, dans un traitement donc ambulatoire, ils vous disent qu'ils ont pris leur médication de façon régulière et racontent même qu'ils n'ont pas parce qu'ils n'ont pris le médicament. Et c'est en cas de décompensation qu'on se raconte qu'ils ont menti. Par exemple, dans le milieu médical, c'est à peu près ces cas que nous rencontrons souvent. Mensonge du côté médical et mensonge du côté donc des patients aussi.
Des deux côtés, c'est partagé. Est-ce que vous pouvez dire que, justement, vous qui êtes psychiatre, professeur Gandao, pour certaines maladies psychiques, on peut parler de mensonges comme de symptômes ou c'est exagéré?
Ah oui, bien sûr, il y a le mensonge que nous pouvons, par extravagance, qualifier de pathologique. Il y a des personnalités qui mentent, enfin, les mythomanes mentent à eux-mêmes. Donc, dans ces conditions, si nous avons la chance d'avoir un malade non coléreux, on s'entoure de patience pour les encourager dans les sentiments positifs qu'ils ont pour améliorer l'interrelation entre eux et nous, pour essayer de corriger un peu le tir. Sinon, effectivement, il y a des mensonges pathologiques. Il y a aussi les politiciens qui mentent à tout moment parce qu'ils disent que leur mensonge n'engage que ceux qui y croient.
Tout le monde voilà en prend pour son grade avec vous, professeur Gandao. C'est ça qui est bien, c'est que personne n'est épargné. Par rapport à nos auditeurs qui nous disent « aidez-nous, j'en ai marre de mentir, je m'enfonce dans le mensonge », est-ce que vous auriez quelques conseils pratiques?
Ah oui, il est vrai, il y a des mensonges qui sont des mensonges légers. Si les gens mentent pour sauver certaines situations, comme le cas de des parents qui sont gênés de répondre clairement à une question que leur pose un enfant, ça, c'est pas encore grave. Il y a aussi d'autres qui mentent pour protéger leur intégrité, là encore, c'est pas grave. Mais pour les personnes qui mentent dans le but d'escroquer, il faut effectivement mettre la fermeté pour que vraiment cela change. Et c'est actuel maintenant où il y a ce qu'on appelle les cybermenteurs qui amènent des gens dans des situations d'escroquerie. Et là, il faut être compréhensif, mais être très très ferme. Mais par contre, pour les malades qui mentent, c'est-à-dire le mensonge pathologique, comme je l'ai dit tantôt, si on a la chance que le malade ne soit pas un malade coléreux, et il faut encourager en lui les sentiments positifs et favoriser les interactions qui améliorent les relations interpersonnelles. Mais dans d'autres cas, ce n'est pas possible, il faut vraiment une thérapie appropriée. Et cette thérapie n'est appliquée par les spécialistes.
Merci beaucoup, professeur Prosper Gandao, d'avoir répondu à nos questions. On l'a bien compris au cours de cette émission. Le mensonge, ce n'est pas quelque chose de bon, mais des fois, on ne peut pas vraiment faire autrement. Professeur Patrick Clairvoy. Et puis, la réalité aussi, c'est assez différent. Je voulais qu'on termine avec l'exemple des lanceurs d'alerte. Dire la vérité, ça peut être dangereux, hein, tout simplement. Certains sont poursuivis par la justice, emprisonnés, voire même éliminés pour avoir dit la vérité, la révélation de la vérité. Depuis la nuit des temps, quand il y a le secret, c'est quelque chose qui peut être préjudiciable, voire même mettre sa vie en péril.
Oui, alors le professeur Gandao a une très belle formule en disant il y a des mensonges qui sauvent et il y a des mensonges qui tuent. Eh bien, on peut l'appliquer aussi à la vérité. Et il y a des vérités qui sauvent, et bien évidemment, Dieu soit loué, c'est le cas majoritaire. Mais il peut y avoir aussi des vérités qui tuent, et qui tue celui qui veut l'énoncer. Il y a cette chanson de Guy Béard dont les anciens se souviennent, qui dit « Le premier qui dit la vérité, il sera exécuté. Mmh. » Puis vient le deuxième, le troisième, et après la vérité est acceptée. Et on voit bien avec, la fatalité, le malheur qui tombe sur les lanceurs d'alerte. Enfin, moi, je peux vous en donner deux. Edward Snowden ou Julian Assange sont deux personnes qui sont quasiment prisonnières. Mm-hmm. Alors, d'un statut de réfugié ou de protégé ou de ce qu'on veut, mais qui sont prisonniers. Et c'est là qu'il faut toujours être très prudent. Et je dis aussi, bien heureux qui n'a pas acclamé la vérité. Voilà.
Donc vérité, mensonge, si on veut continuer, parce qu'il y a encore plein de choses passionnantes à découvrir dans ce livre, dans votre livre, professeur Patrick Clairvoy, je rappelle, publié aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bien manger, rester en bonne santé, tout de suite dans votre émission Priorité Santé, c'est en votre compagnie Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Une question importante, on va parler de l'alimentation des personnes âgées et en particulier savoir pourquoi les personnes, quand elles atteignent un certain âge, avancent en âge, et bien pourquoi elles ont des besoins alimentaires spécifiques.
Alors, le vieillissement augmente la survenue de fragilités qui peuvent amener à une perte d'autonomie. Il augmente la survenue de maladies comme le diabète, les maladies cardiovasculaires ou encore des maladies neurodégénératives. Alors, on sait aujourd'hui, et ça c'est très important, que le statut nutritionnel des personnes âgées va avoir un impact très important sur leur santé et leur autonomie. Mais ce qu'il faut bien prendre conscience, qu'on oublie souvent, c'est que l'enjeu c'est d'arriver justement vers l'âge de 60-65 ans avec le meilleur statut nutritionnel possible. Pour ceci, il faut adopter très tôt une alimentation équilibrée et diversifiée qui va permettre d'aborder cette période de la vie sans maladie chronique déjà installée, très important, sans facteur de risque important de ces maladies pour ne pas les développer, mais aussi et surtout avec des os et des muscles qui sont dans le meilleur état possible pour limiter ces fragilités dont on a parlé et favoriser le maintien d'une autonomie dans le temps. Alors, une fois arrivé autour de cette période de 65 ans, ce n'est pas un âge fixe, hein, c'est une période, il faut maintenir un état nutritionnel adéquat en maintenant un plaisir de s'alimenter. Ça, c'est très important, en évitant absolument les régimes drastiques et en surveillant que n'apparaisse pas une dénutrition avec l'installation de deux choses qu'il faut absolument surveiller après un certain âge, c'est la sarcopénie ou une ostéoporose. Alors, il faut bien sûr en parallèle maintenir une hydratation et une activité physique adaptée.
Alors, une question, la sarcopénie, c'est quoi précisément ?
Alors, la sarcopénie, ça se définit par une perte de masse musculaire, mais aussi, c'est très important, de force musculaire. C'est ça qui va avoir un impact dans la dépendance. Elle est liée au vieillissement, par une diminution de la synthèse des protéines musculaires qui survient avec l'âge. Elle est aggravée c'est deux choses. Hein. C'est d'abord l'âge, que ça, on ne peut rien y faire, mais aggravé par une dénutrition. Mm-hmm. Donc, c'est très important, dans un premier temps, de s'assurer qu'il n'y a pas cette dénutrition en surveillant le comportement alimentaire, comme la prise régulière des repas ou encore la perte d'appétit, et en parallèle, en surveillant le poids. On peut s'alerter s'il y a une perte de poids qui est supérieure à 5% en un mois ou si elle dépasse 10% en 6 mois. La prévention de la sarcopénie, elle passe par la réalisation d'un exercice physique régulier qui va permettre un renforcement musculaire. On n'est pas là sur courir un marathon, pas du tout, c'est le renforcement musculaire qui est important. Elle passe aussi par un apport adéquat en protéines, par l'alimentation, consommant des produits laitiers, de la viande, du poisson, des œufs ou encore des légumineuses comme l'arachide, les lentilles, les haricots ou encore le pois ou le soja.
Alors tout à l'heure, Stéphane Besançon, vous parliez d'un autre risque quand on avance en âge, c'est l'ostéoporose. Comment est-ce qu'on peut la prévenir? On va commencer par expliquer ce que c'est.
Alors, l'ostéoporose, ça va être la diminution de la minéralisation osseuse qui va provoquer la fragilité de ces os et qui peut entraîner, c'est pas une fatalité, mais souvent ça arrive, un risque accru de fracture. Donc, cette maladie, elle est silencieuse, hein, c'est important de comprendre ça. Elle présente peu de symptômes, donc il faut être très vigilant. Alors, pour la prévenir, il faut réaliser là aussi de nouveau une activité physique régulière et adaptée quand on arrive dans une certaine tranche d'âge et assurer à l'organisme un apport adéquat en calcium et en vitamine D. Les deux, c'est vraiment central. La carence en vitamine D, elle va être liée à quoi? Pourquoi on a un manque de vitamine D? C'est un manque d'exposition au soleil, déjà la première chose, quelque chose d'un mécanisme naturel. Et puis après, c'est lié à l'alimentation. Donc les recommandations sont simples. Un, plus s'exposer au soleil en faisant bien sûr attention à l'exposition au soleil. Et deux, en consommant plus de poissons, de produits laitiers, de viande et aussi de substituts à base de soja pour les personnes qui, elles, vont avoir une intolérance au lait ou aux produits laitiers. Pour le calcium, l'apport journalier, lui, il est recommandé, c'est à peu près 1 gramme par jour. Et pour ça, il faut une alimentation diversifiée avec 2 ou 3 produits laitiers par jour, des poissons gras, certains légumes verts comme le chou, les épinards, et bien sûr les légumineuses comme le haricot blanc, mais aussi ne pas oublier les noix, comme les amandes par exemple, qui permettent d'apporter la quantité de calcium dont on a besoin. Alors, si une ostéoporose est diagnostiquée, il faut renforcer cette alimentation, aller chercher plus de calcium. Et c'est vraiment si ça ne suffit pas qu'on va à la supplémentation avec des suppléments extérieurs. Et enfin, il faut réduire la consommation de tabac et d'alcool qui sont aussi très importantes.
Et peut-être d'autres conseils pour justement, objectif, rester en bonne santé quand on vieillit?
Oui, alors là, on a vu le côté très mécanique et très nutrition. Avec le vieillissement, il ne faut pas oublier que peuvent survenir des difficultés qui sont liées à d'autres choses, c'est-à-dire qui peuvent être liées aux troubles cognitifs, qui peuvent être liées aux troubles de la déglutition, aux problèmes dentaires aussi, et puis pour les raisons plus sociales, la désocialisation, des problèmes financiers. Donc la question centrale, c'est qu'il est primordial de redonner le goût et le plaisir à s'alimenter, mmh, en évitant absolument les régimes restrictifs, parce qu'à un certain âge, ça n'a plus vraiment de sens. Mmh. Et puis, à remettre de la convivialité aussi, et en adaptant, bien sûr, les aliments à ces problématiques de déglutition, de mastication. Et enfin, chez personnel, il est primordial, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est central, d'assurer une hydratation régulière tout au long de la journée en étant plus vigilant, car elles-mêmes ressentent moins la sensation de soif. Donc c'est très important de surveiller pour s'assurer qu'il n'y ait pas de déshydratation. Et on le sait maintenant avec les canicules qui se répètent, il faut être beaucoup plus vigilant durant les canicules pour les personnes âgées, pour cette question d'hydratation, pour éviter des conséquences qui peuvent être dramatiques. Donc hydratation très importante, alimentation plaisir pour vivre en bonne santé quand on est âgé.
Le plus longtemps possible. Merci beaucoup Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste. À bientôt dans Priorité Santé. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. Ophélie Lassène, Louise Calédec, Didier Bleu et Laurence Nau. À demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec Sunway Assurance, qui en cas de décès, met à l'abri vos proches de tout besoin financier. Sunway Assurance, notre métier, l'assurance. Tout à l'heure.